Votre homologue, Stephen Blaney, a commencé son mandat politique avec tout un défi au niveau économique. Vous
Oui,
aviez eu affaire à
oui.
M. L'Olier dans les dernières années. Vous allez avoir affaire à M. Blaney dans les prochaines années aussi. Vous l'avez rencontré. Vous voulez de bonnes relations aussi. Vous l'aviez dit une fois élu. Est-ce que vous pensez que ça va être complexe dans le contexte économique de Lévis en ce moment de faire des affaires comme vous pensiez?
Non. Non, parce que ça, c'est des défis. Lévis fait face à de grands défis. Ils ont une grande croissance. Fait que souvent que la croissance vient des bons défis. Mais c'est pas tant ça qui va nous nuire dans nos collaborations. Ça, c'est M. Blaney qui va devoir trouver les solutions à ces défis-là de croissance. M. Leouilly avait commencé, bien évidemment. Mais nous, pendant ce temps-là, ben, on développe notre ville. Mais sur le plan de la collaboration, ça ne change rien.
Monsieur Blainey, va faire un point de presse demain concernant l'immigration temporaire. Croyez-vous qu'il va aller dans le même sens que vous pour
Oui.
réclamer justement?
Mais on s'est pas parlé cette semaine. On s'est vu la semaine passée à l'Union des municipalités du Québec. Mais vous voyez, là, moi, j'ai demandé au maire de venir prendre position parce que c'est important dans toutes les localités. La mairesse de Montréal l'a fait. La mairesse Bibeault à Sherbrooke l'a fait. M. Blainey va faire un point de presse demain. Le maire de Trois-Rivières fait un point de presse demain. Je pense que plus nombreux, on va être à parler. Je pense que M. Blaney, il m'a pas dit ce qu'il dirait. Je pense qu'il est dans ce volet économique. L'importance de l'économie, il comprend ça. Et le soutien aux entrepreneurs, notamment par le fait que les travailleurs immigrants amènent beaucoup à une économie parce qu'ils occupent des emplois qu'on n'est pas capable de remplir autrement. J'ai confiance. Puis plus on va être nombreux à parler d'une même voix, bien, plus on va être nombreux à dire les catastrophes de ce changement de programme-là, faut qu'on se trouve les façons de les diminuer. J'espère que M. Robert nous entend. J'ai l'impression que oui. Maintenant, seul le résultat fera foi de tout.
Et je termine avec ceci. Est-ce qu'en 2026, là, en décembre 2026, on peut espérer avoir des patinoires extérieures? Monsieur Marchand, s'il vous plaît, on est encore une ville hivernale, puis on veut
Oui.
être la ville qui bouge le plus.
Je suis d'accord, Jean-François. Puis cette année, on s'est un peu fait prendre par un hiver hâtif en termes de gel, puis il n'y a pas eu de dégel, ça fait que c'est une bonne nouvelle. On a eu des patinoires, on a eu presque une vingtaine ouvertes la semaine passée. Elles vont toutes être réouvertes ou presque. S'il y a une exception, ça se peut, mais la très, très grande majorité, pour pas dire la presque totalité, vont être ouvertes pour les vacances qui commencent demain. Tout à fait d'accord avec ça.
Fait que dans le fond, je comprends qu'on n'avait pas été de l'avant parce que décembre, dans les années précédentes, il y avait souvent des périodes de dégel, puis là, c'était travaillé dans le vide. C'est ce que je comprends?
Oui, puis c'est que quand tu fais une patinoire ben, puis t'as à perdre, ben, c'est comme si tout était à recommencer. Fait qu'en ce sens-là, c'est sûr que les derniers mois de décembre n'ont pas été toujours propices, mais à nous d'essayer de trouver des façons d'être encore plus agiles pour offrir à notre monde l'occasion de bouger. Je suis d'accord avec vous.
C'est pas de mauvais investissement ou rien, c'est juste une
Ah non, c'est même pas,
planification.
non, non, c'est pas
Non, c'est
pas une
ça.
question de budget, là. Non, pas du
Exact.
tout. Puis faut pas confondre. Quand j'ai dit dans le budget qu'on allait fermer quelques patinoires, c'est pas parce qu'on pèse. On sous-investit dans nos patinoires. On investit plus qu'avant dans nos patinoires, notamment avec les patinoires réfrigérées couvertes ben, réfrigérées couvertes. On en a deux, on va en avoir trois, on va en avoir quatre. Mais ça prend aussi de l'argent qu'on met, qu'on assume de mettre parce qu'on y croit, mais pour lequel, quand on a des patinoires moins utilisées, ben ça vaut pas la peine de garder des patinoires non utilisées. On met l'accent sur ce qui marche.
On fait des cadeaux aux politiciens qui passent dans nos studios dans les derniers jours. On dit un peu les deux commentaires, soit négatifs ou positifs, qui reviennent le plus pendant l'entrevue. C'est une chose qu'on ne fait pas souvent. Directement aux politiciens. De votre côté, M. Marchand, ce qui est un petit peu plus négatif, c'est encore l'itinérance zéro. Les gens ont de la misère avec ce terme-là. Ils pensent que c'est un petit peu une lubie, là, ou un fantasme. Puis de l'autre côté, le très positif, c'est votre ton, c'est votre ouverture envers l'électorat, envers vos homologues et tout ça. Les gens pensent que même si vous êtes majoritaire, on est sur la bonne voie au niveau de la gestion de la ville et dans les communications.
C'est bon d'entendre ça parce que je le fais pas de façon factice, là. J'ai vu trop de politiciens au deuxième mandat puis on a gagné avec une bonne force, penser qu'ils sont la merveille du monde. Puis moi, je veux pas ça. Je veux me rapprocher encore plus des gens, je veux écouter plus. Je le répète, ça veut pas dire que parce qu'on écoute, on va être d'accord avec tout le monde. Si on attend d'être d'accord avec tout le monde, on fera rien. Mais je veux être plus proche des préoccupations des gens. Puis c'est pour ça qu'on est parti en tournée de consultation. On n'est pas parti en disant qui nous aime, nous suivre, on a été élus, puis les autres manger de la M, là. Pas du tout. Cette ville-là, je veux la construire avec les gens de Québec. Moi, je suis là pour les servir, puis ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est un beau cadeau de Noël d'entendre ça.
Tant mieux. Monsieur Marchand, vous souhaite une excellente période des fêtes.
Merci.
Également, un bon début d'année 2026 et au plaisir de se reparler là, durant cette année qui va être mouvementée avec la campagne électorale qui arrive au provincial.
Joyeux Noël à vous deux. Joyeux Noël aux auditeurs. Je souhaite à tous ceux qui vont le pouvoir, il y en a qui doivent travailler. Là, on les remercie. Mm-hmm. Puis pour les autres, du temps avec les gens qu'ils aiment. C'est une période précieuse. Profitez-en à vous tous.
Joyeuses fêtes. Revenez-nous en force parce que vous allez en avoir besoin.
Absolument.
Merci de vous être rendu disponible aujourd'hui pour l'émission En Jase.
N'importe quand, salut.
Salut, c'est très apprécié. Bruno Marchand, maire de Québec, on l'a fait réagir sur l'entrevue de François Legault. Pascal, moi, je retiens qu'en immigration, il travaille main dans la main. Mm-hmm. En itinérance, c'est plus tough avec le gouvernement. Puis le troisième lien central, oublie ça, Bruno Marchand ne mettra jamais son stème d'approbation.
Non, il dit « Je ne suis pas un défenseur et je ne suis pas un opposant ».
C'est
pas
ça.
Mal neutre.
Pas mal neutre, mais pas choses. Mal neutre qu'on ne s'ira pas vanier en deux. Puis avec le projet de 5000 logements au Galerie de la Capitale, ça me surprendrait que Bruno Marchand dise « C'est une bonne idée de le faire sur Robert Bourassa parce que c'est ça l'autre tracé. »
Ça va être une grosse année politique pour le maire Marchand
vraiment?
Comme pour le provincial puis le fédéral. Moi, j'ai hâte de voir la période hivernale avec le déneigement. Faut pas flopper.
Non.
Faut vraiment pas flopper. Là, la grogne peut venir de
ah,
tous
oui,
les côtés.
Ah oui, parce que diminution de 6 millions dans le budget du déneigement. Augmentation de 200 000 pour les pistes cyclables. Ça, les gens vont surveiller ça.
Ah, ben, ils vont pas juste le surveiller. Je pense pas qu'ils surveillent, je pense qu'ils subissent. Puis c'est quand ils subissent que là, la grogne sort. Puis c'est là où M. Marchand, des fois, d'en parler du ton, peut être un petit peu en désaccord avec ceux qui se plaignent. Intéressant de voir qu'il veut se rapprocher des électeurs, des citoyens de sa ville.
Consultation dans Saint-Roch qu'il va y avoir au début janvier. Ça, je trouve ça très intéressant comme façon de faire. Je le sens plus grounded sur ce qui se passe à la Ville de Québec. Donnez-nous vos commentaires, justement, 418-971-1021. Mais je le sens plus près des gens à l'heure actuelle.
Du moins, il essaie. Si c'est un essai, c'est réussi pour le moment.
Puis, tu sais, avec sa réponse sur les patinoires, le Bruno Marchand de v'là 2 ans a essayé de nous inventer une patente.
J'ai aimé ça qu'ils disent écoutez, là, nous, on a regardé les années précédentes, puis il n'y avait pas d'hiver, là, on n'était pas prêts. C'est transparent. C'est comme, hey, on va essayer de faire mieux la prochaine fois, mais c'est dur dans les prévisibilités d'aller autrement que ce qu'on avait sur papier.
Ouais.
Au moins, on n'a pas perdu de l'argent à refaire la patinoire parce que là, vous savez, il va y avoir un redout là, dès
en
demain. Aujourd'hui, c'est commencé.
Beaucoup plus terre à terre aussi parce que quand je lui disais, hey, félicitations, spectacle aura, je suis allé, il aurait pu se péter les bretelles, l'a pas fait. Non, mais c'est vrai, l'ancien Bruno Marchand, il y a 2 ans, se répétait les bretelles. Hey, vous voyez comment je suis bon, vous voyez, ça c'est mon idée. Vous voyez,
ça,
vous voyez.
J'ai jamais vécu.
Ouais, moi, je le vivais dans mes premières conférences de presse avec.
Ça se peut
il essayait de vraiment, tu sais. Puis là, je veux pas du tout le comparer à ce personnage politique-là, mais il essayait un peu, tu sais, c'était la technique un peu de Donald Trump. C'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Puis là, on creusait, puis on disait, ouais, c'est pas si beau que ça, finalement. Arrêtez de nous dire que. Donc, ça, j'ai aimé ça de l'entrevue avec Bruno Marchand, de sentir ceci. Il va avoir beaucoup de pouvoir sur le provincial, pour la capitale nationale, parce qu'il y a 18 conseillers municipaux sur 21. Il est majoritaire à souhait. Moi, je sens dans l'opinion publique qu'il y a beaucoup moins de critiques qu'il y en avait jadis avant l'élection parce que les gens ont respecté le processus démocratique et c'est bien tant mieux. Chapeau aux résidents de la Ville de Québec d'avoir respecté ce processus-là. Puis, honnêtement... Il ne dira jamais ouvertement, mais si le PQ rentre au pouvoir avec une couple de députés dans la région de Québec, ils sont pas mal alignés sur les questions de transport et de mobilité. Là.
Jeff, il y a une affaire. Une chose que je vais surveiller assurément, c'est le défi de la jeunesse dans son parti politique.
Oui!
J'ai absolument rien contre ça. Je veux dire, on m'a donné la chance jeune d'avoir de gros défis professionnels.
Idem pour moi.
Donc, j'appuie ça. Cependant, au sein de son parti, il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de débutants en politique. Ce sont de gros dossiers à gérer. On est vraiment dans une ère politique où tout est à construire et où reconstruire et où innover ici à Québec. Tout le monde tire un peu de la couverte de son côté là, dans tous les secteurs, que ce soit économique ou sociaux, etc. Ça va être quand même un pari aussi. Là. Il l'a fait, le pari, qu'avec un aussi gros cercle de jeunes au sein de son parti, ça va fonctionner. Mais l'éducation à la politique, pour quelqu'un qui est aussi... tout jeune dans ce domaine-là risque d'être un petit peu ardu. À certains moments, on risque d'en échapper en deux cracks. J'ai hâte de voir comment il va réussir à se sortir de tout ça aussi pour la prochaine année. Puis oui, comme tu disais, il y aura toute la problématique avec le provincial à gérer là, pour la suite des choses. Moi, je pense que M. Legault, Québec n'a jamais été une grande priorité quand c'est Bruno non. Marchand, même si c'est un peu la revanche des nerds. Hein, t'sais, oui. Il avait été écarté et tout ça. Ah, maintenant, vraiment. Il arrive très fort. M. Legault arrive très faible.
Ben d'ailleurs, tu as vu le ton changer.
Il y a les
M. Legault est allé à l'hôtel oui. de ville. Quand on avait mis fin au projet de tramway, qu'on l'avait retiré de la ville de Québec, on avait invité Bruno Marchand à l'Assemblée
exact.
Nationale.
Oui, l'image
ça, pour
parfaite.
Moi, là, ça parle énormément. C'est des images politiques qui parlent beaucoup. Quand un va visiter l'autre,
c'est l'image
c'est celui
parfaite.
Qui reçoit qui est en position de force. Et ça, je sens vraiment que Bruno Marchand le sait, mais il l'utilise bien. Il aurait pu être beaucoup plus critique de François Legault. Il était critique sur certains points qu'il sent qu'il peut avoir une emprise, notamment l'itinérance pour du financement un petit peu plus long terme que court terme. Mais sur le reste, je trouve qu'il est bon joueur d'équipe à l'heure actuelle. Donc, 418-971-1021, n'hésitez pas si vous voulez interagir sur cette entrevue-là. Pascal, quelques manchettes pendant ce temps-là. Moi, j'appelle notre ami Roger Ferland
oui.
parce qu'on va revenir sur le dossier Cédrica Provencher.
Oui, d'accord. Alors, je ne le ferai pas en manchette, Jeff. Je vais attendre qu'on en parle avec notre invité. Les nouvelles, c'est assurément Pablo Rodriguez a occupé une grande partie de l'actualité dans les dernières semaines. Vous le savez, il a démissionné officiellement. Il a pris la parole ce midi. Il dit qu'il n'a rien à se reprocher et il continue sur cette voie-là. Il démissionne cependant. Il laisse la place à tous les autres au sein du Parti libéral pour continuer la pérennité, en fait, qu'il tentait d'instaurer au niveau du parti. Il dit « Le parti mérite qu'on parle de lui et non de moi ». C'est un peu la clôture de sa prise de parole. Vincent Blanchette voit ses conditions de remise en liberté assouplies parce qu'on a déposé une caution de 150 000 $. Je vous rappelle qu'il est accusé, entre autres, de sollicitation de services sexuels et d'extorsion. C'est un gros joueur de la restauration. C'est un homme d'affaires que vous connaissez. Il souhaitait voyager, utiliser les réseaux sociaux et tout ça. Et voilà pourquoi il y a une caution de 150 000 qui a été déposée. Ça s'est fait aujourd'hui. Là, ça vient de se faire. Entre autres, il a pu retrouver son passeport en échange du dépôt de cette caution-là. Si vous avez quoi que ce soit à dire, 418-971-1021 sur la nouvelle. Je veux vous dire aussi que Blanchette avait déjà déposé 40 000 $ au greffe de la Cour du Québec pour retrouver sa liberté après sa comparution en août dernier, mais il a dû allonger 110 000 supplémentaires aujourd'hui pour qu'on acquiesce à sa demande de modification de conditions. Si je peux toujours aller dans l'actualité, il y a du côté des Îles-de-la-Madeleine, la seule ferme avicole qui a été rasé par les flammes. Ça paraît loin, mais c'est important
triste.
De le nommer. C'est absolument triste parce que, vous le savez, on est isolé de ce côté-là. C'est la seule à produire des œufs aux îles de la Madeleine. Ça a été détruit pendant un violent incendie qui s'est déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, c'est des ressources directes pour les îles de la Madeleine. Qu'est-ce qui va arriver? Le prix des œufs et tout ça, ça va être à revoir, mais on partage cette peine-là, puis on dit que c'est un désastre total pour cet incendie-là. Éclosion de rougeole au Québec, on est rendu à 7 cas, dont un à Montréal. On rappelle que c'est qu'il y a une diminution des vaccins au niveau de la rougeole chez nos jeunes. Il y a aussi, du côté des États-Unis, Bill Gates, des textos, des passeports, il y a des photos de la succession de Jeffrey Epstein qui ont été dévoilées par des élus démocrates. C'est une soixantaine de photos inédites qui provient de la succession de Epstein qui ont été rendues publiques par le comité de surveillance démocrate de la Chambre des représentants. Deuxième série de photos, ça provient de 95 000 images reçues de la part de la succession, ce qui est énorme. Certaines d'entre elles montrent des passeports de différents pays comme l'Ukraine, la Lituanie, la République tchèque, dont les noms sont caviardés. D'autres montrent des phrases écrites sur le corps d'une femme. Il y a une capture d'écran qui montre des textos aussi qui a été dévoilée. On peut lire, je ne sais pas, essaie d'envoyer quelqu'un d'autre. J'ai une amie qui m'a envoyé des filles aujourd'hui, mais elle demande 1000 $ par fille. Je t'envoie des filles maintenant.
Ouf.
Peut-être que quelqu'un sera bon pour J. particulier. Un
ouais.
autre message caviardé qui liste le nom, l'âge, soit 18 ans, la taille, les mesures, le poids, la liberté ou non de mouvement en zone Schengen et la ville de départ, soit la Russie. Puis d'autres clichés qui dévoilent aussi le célèbre homme d'affaires Bill Gates, en compagnie de femmes dont le visage est caviardé.
Donc, très questionnant tout ça et sûrement quand il y aura des informations là, qui vont sortir au compte-gouttes, plus on va éplucher les documents. Canadiens de Montréal au sport reçoivent les Blackhawks de Chicago ce soir au Centre Bell. Les Hawks sont privés de leur meilleur marqueur, la sensation canadienne Connor Bedard. Il est blessé à une épaule, absent pour au moins 2 semaines. Donc, bonne opportunité pour le Canadien de se remettre en selle à domicile. Et dans la NFL, c'est un match tellement important. Match pour la première position dans la division ouest de la conférence nationale, alors que les Rams de Los Angeles visitent les Seahawks à Seattle. Les deux équipes sont à 11 victoires et 3 revers. Les Rams seront privés de l'excellent receveur de passe, Davante Adams. On s'en va immédiatement rejoindre Roger Ferland au bout du fil parce que, Pascal, il y a des nouveautés dans le dossier Cédrica Provencher et surtout de Jonathan Betheis, ouais, qui est un des suspects dans cette affaire qui remonte là, à 2007, hein, j'y vais de mémoire.
Principal suspect, oui, visé. C'est pour ça que j'ai écarté la nouvelle. Je savais qu'on s'en allait avec Roger dans quelques instants. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a aucun témoin dans l'affaire Cédrica Provencher qui a été formellement identifié comme étant Jonathan Bété. Donc, la SQ a montré des photos de Jonathan Bété à 2 des 5 témoins rencontrés dans cette affaire-là d'enlèvement puis de meurtre. Et le meilleur témoin de l'affaire, celui qui a interagi directement avec Jonathan Bété, avec le suspect, n'a donc jamais vu cette photo. C'est vraiment un genre de lapsus, là, ish, dans ce que je viens de faire, je m'excuse. Il y a de nouveaux documents de cour qui nous apprennent que seulement 2 des 5 témoins dans l'affaire ont eu droit à cette parade d'identification de photos-là. C'est une procédure que vous connaissez, là. Ça consiste à montrer plusieurs photos de suspects, des suspects qui sont potentiels, à des témoins oculaires, des témoins qui ont vu des choses lors de certains événements, puis d'essayer de tirer des ressemblances avec un principal suspect. Dans ces photos-là, il y avait celle de Jonathan Bété. Pourquoi on est là-dedans en ce moment? C'est qu'il y a des nouveaux documents qui sortent parce que la famille Bété réclame 10 millions de dollars à la SQ. C'est des policiers qui sont chargés de l'enquête sur le meurtre de Cédrica Provencher qui sont touchés et au procureur général de Québec. Et on a décidé de parler à Roger Ferland aujourd'hui à ce sujet.
Roger Ferland, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Bonjour Pascal, bonjour Jeff.
Merci.
Très bien.
Merci pour ta disponibilité de dernière minute, Roger. Roger, à la lumière de ce que t'entends, tu vois, est-ce que c'est des erreurs policières qui feront en sorte que le dossier de Cédrica Provencher est encore dans le néant?
Je ne prendrais pas le terme erreur, mais je prendrais le terme, c'est la difficulté avec laquelle on est pris quand on enquête dans le code criminel. Le code criminel, ça nous prend une preuve hors de tout doute raisonnable. Alors, si tu penses qu'il y a un doute, tu ne peux pas avancer dans le dossier. Alors qu'au civil, on parle d'une prépondérance de preuves, ça veut dire 50% plus un, genre, tu peux avoir quelque chose. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que là, voyez-vous, les policiers ont fait des actions, ont posé des gestes, essayaient d'enquêter vers des suspects potentiels. Est-ce qu'il y avait besoin de montrer les photos? Tu ne montres jamais de photos de line-up à quelqu'un quand tu sais que la personne, elle ne peut pas le reconnaître de toute façon. Alors même si c'est des témoins potentiels, puis je ne l'ai pas vu, je ne pourrais pas le reconnaître. C'est pour ça, Pascal, on n'y montrerait pas de photos parce que tu risques juste de contaminer, de montrer une photo de quelqu'un. Alors, tu le suspect est là-dedans. Puis encore là, il y a toute une façon de présenter photos dans un mode line-up.
Alors, aussitôt que la personne se dit ne pas être témoin oculaire, c'est-à-dire de ne pas avoir vu de suspect, mais avoir d'autres types d'informations, on ne va pas avec les photos. Là.
Non, tu n'iras pas là. Tu n'iras pas là. Puis moi, ça est arrivé aussi dans d'autres dossiers, dans le cas de la guerre des motards. On a présenté un autre format, qui est le format mugshot, en disant, on vous montre une photo de plusieurs personnes. Là, ça en prenait à peu près 50 photos. Puis, identifiez-moi donc des gens que vous pensez que vous avez déjà vus faire des meetings secrets dans votre restaurant. Et là, vois-tu, on tombait dans une autre catégorie où est-ce que les serveuses de restaurant nous identifiaient des gens. Mais lui, je l'ai déjà vu ici, puis voici pourquoi. Fait que là, ils décrivaient des gens, mais c'était nos bonnes personnes. Alors, dans certains cas, des fois, tu mets le bon suspect, puis dans d'autres moments, non, tu mets juste un peu at large. Mais ce qui arrive, là, voyez-vous, au civil, c'est normal, M. Bété, sa réputation a été attaquée, sa famille, la compagnie. Est-ce que la sûreté a abusé, a été trop loin? Là, il y a tout un débat civil qui va s'enclencher. Mais M. Bété attaque la police, mais la police aussi aura le droit de se défendre tantôt. Parce que il n'est pas dit qu'il y a beaucoup de preuves que les policiers, je suis convaincu, possédaient qui dans leur dossier, mais qui n'avaient pas le droit de présenter dans une preuve criminelle. Alors là, au civil, s'enclenche une nouvelle procédure dans le but de savoir okay. est-ce que dommages et intérêts, est-ce que les policiers ont été abusifs dans leur façon de faire enquête, est-ce qu'ils ont eu une vision tunnel dans leur façon de le faire. Oh. Là, il y a un paquet de termes qui vont rentrer dans ça, mais je pense qu'il y avait des suspects devant eux. Est-ce qu'ils ont éliminé, qu'ils ont travaillé en conséquence? Là, voyez-vous, c'est tout ça qui va être regardé par un nouveau juge dans le cas d'une procédure civile. S'il faut que ça soit qu'il y a eu des fautes, ben là, oui, il y aura des dédommagements possiblement qui peut être fait. Mais encore là, on n'est pas encore en train d'avoir fait les preuves complètes.
Mon cher Roger, t'es allé vite là-dessus, mais est-ce que j'ai compris que par le fait que c'est un procès civil cette fois-ci et non un procès criminel, et mm-hmm. par le fait qu'on doit se défendre, on va mm-hmm. avoir la possibilité pour la première fois de mettre des preuves qui avaient été accumulées, du moins des indices, du moins de l'information récoltée, sur la table et donc que le public risque d'être au courant et de faire un peu de lumière parfois ou encore de faire réfléchir le cerveau de tous dans ce cas-ci?
T'as très bien compris le bref résumé que j'en ai fait. Tu viens très bien de l'exposer. C'est exactement
toute une stratégie aussi pour les policiers cette fois-ci. C'est pas juste une défense.
Ben c'est parce que on ne peut pas être stratège dans la façon qu'on présente quand on est au criminel. Au criminel, faut que la preuve puisse être présentable. Faut que tu sois sûr. Mais il y a toutes sortes d'informations qui nous parviennent à un moment donné. Puis des fois, tu dis ah ça c'est un peu loufoque. Je peux pas mettre ça là. On peut pas faire preuve d'une preuve de caractère par exemple. On ne peut pas faire preuve de ce qui ne s'est pas passé. Tandis qu'au civil, on a le droit de tout présenter ce qu'on possédait et on va se défendre de pourquoi on a posé tel geste, pourquoi on a écrit tel mandat de perquisition, pourquoi on est allé si loin à un moment donné dans telle chose. C'est parce qu'on avait cette intention-là derrière. Même si tantôt on ne réussit pas à découvrir l'élément, ça ne veut pas dire qu'on était mal intentionné. C'est pour ça qu'il y a toute une marche encore là dans ce qui va se dérouler dans la procédure civile. C'est un très gros montant, j'en conviens, là. Mais je suis pas convaincu qu'il va gagner la loterie nécessairement là-dedans, mais pareil, ça compte.
Donc, Roger, Jonathan Bettis, mais quand même à risque qu'on oui. apprenne des choses sur lui.
Oui,
complètement. Regardez, vous parliez tantôt là de tout ce qui se passe avec Jeffrey Epstein. C'est la même chose. Mm-hmm. À partir du moment où tu essaies d'étouffer une histoire, deux secondes, tous les autres éléments qui sont là, qui n'étaient pas présentables à la cour, vont sortir. Moi, je le sais, je l'ai vécu dans la prostitution juvénile. Là. Même si on a accusé certaines personnes qu'avec un ou deux témoins, je peux te dire qu'après, des témoins en arrière, s'il avait fallu qu'on aille au civil, ces gens-là sont jamais revenus au civil contre nous parce qu'il y avait 5, 6, 8, 10 témoins qui venaient nous dire « Non, je l'ai faite, cette personne-là, mais je veux pas vous le raconter parce que je veux pas aller témoigner à la cour. »
Je l'ai faite étant, je l'ai tué, je l'ai passé.
Exactement, c'est ça. C'est en plein ça. Fait que c'est pour ça que il y a là, c'est une importante démarche qui se déroule, là. Puis je suis sûr que la Sûreté du Québec ne prend pas ça à la légère, puis c'est pas le fun d'avoir une poursuite, mais ça va peut-être permettre d'expliquer des choses et de comprendre comment l'enquête s'est faite, parce que c'est comme ça qu'on va regarder au civil. Est-ce que les policiers ont agi avec bienveillance ou s'il y a eu certaines actions qui étaient des intentions obliques ou, comme je disais tantôt, une vision de tunnel dans pareilles circonstances. Mais là, c'est une autre procédure, une autre façon de regarder tout à fait la preuve que les policiers avaient dans le dossier.
Et en terminant, Roger, ça veut dire que nous, simple public également, on va savoir combien il y avait de suspects à la base, mm-hmm. puis comment qu'on a justement traité ces suspects-là sans nécessairement savoir leur nom, mais on va vraiment avoir des détails importants, voire croustillants de cette enquête-là?
Bien, on va en savoir un peu plus. Gardons en tête, par contre, que si ça peut briser la réputation de quelqu'un, peut-être que les informations vont être tenues... on va caviarder l'information.
Oui, c'est vrai.
On va taire le nom de la personne. Parce qu'on ne veut pas, parce que la personne a été ciblée comme suspect, qu'on pense après ça que c'est elle. Moi, je me souviens d'un dossier d'enquête, d'un cas d'agression sexuelle. On a eu à peu près 650 noms de suspects identifiés, mais il n'y en a qu'un seul qui était le bon là-dedans. Alors, on ne veut pas donner les 649 autres, tu comprends bien? Parce qu'il y en a un, finalement, en bout de ligne, tu accuses quelqu'un, tu as de l'ADN, tu as une preuve complète, bingo. Mais on n'est pas dans cette circonstance-là. Mais là, on va comprendre qu'il y avait peut-être 50, 100, 200 suspects, j'ignore le nombre. Et de ça, pourquoi ont-ils mis l'entonnoir en fonction de quelqu'un de plus précis, ben, il y a sûrement des probabilités, il y a sûrement des faits précis qu'il possédait, même si ça n'a pas été divulgué devant les tribunaux de façon criminelle.
C'est franchement intéressant. Ah, c'est ouais. vraiment, vraiment une clé qu'on n'avait pas vu venir et une situation dans laquelle M. Bété s'est mis lui-même avec sa famille.
Ben, oui.
En même temps, il veut récolter beaucoup d'argent. Ça se peut que ça se tourne positif pour lui.
Oui,
là.
Tout à fait. Oui, parce que il se peut que les policiers... C'est pour ça que moi, j'ai encore confiance en notre système de justice canadien, sincèrement. Là, on y trouve des ratés, là, mais on a un bel équilibre là-dedans. Mm-hmm. Et dans les circonstances, la preuve va être exposée, mais dans les deux cas. Allons pas penser que là dans son affidavit, M. Bété exprime tous ses faits, c'est correct, mais on n'entend pas la réponse des policiers en ce moment à ça. On va la savoir éventuellement dans les procédures civiles qui vont se dérouler là-dedans.
Roger Ferland, c'est clair qu'on va continuer de parler de ce dossier-là en 2026 avec toi et de plein d'autres dossiers. Merci de collaborer à nos émissions sur Boulevard 101, notamment l'émission On en jase. Je te souhaite des joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2026.
Je vous en souhaite tout autant. Vous êtes une belle équipe puis j'adore vos auditeurs également.
Merci beaucoup, Roger, pour ce joyeux temps des fêtes.
Bonne journée. Bye-bye.
Salut, c'est Roger Ferland. Hey, ça va tomber être intéressant, ça, Pascal. Oui.
Tu sais, dans le genre d'entrevue qu'on va chercher des experts pour ouais. un dossier, comme Roger Ferland, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec. Je suis désolée. Pour vrai, j'ai goût de vous donner un prix.
Grave.
Si vous accumulez 10 moments où je déparle.
Ouais.
Donc, je suis vraiment désolée. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'entrevue tourne là. Il y a
moi
vraiment un petit quelque chose. Il parlait, je l'écoutais. Je me suis dit, attends.
Ah non, c'est
là,
très particulier.
Là, c'est une chance pour les policiers. Puis, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils commencent à se détourner en se disant, OK, là ça va être notre place au spectacle, là, à déposer ce qu'on peut. Il faut quand même qu'ils se concentrent à se défendre dans cette poursuite-là. Mais je ne crois pas que M. Bété et sa famille avaient anticipé
cette
possibilité-là pour les policiers, puisque c'est aux civils de déposer des informations avancées qu'ils ne pouvaient pas déposer aux criminels, parce que là, c'était une preuve importante qu'ils devaient mettre sur la table et non des suppositions ou encore des allées.
Non, t'as raison. M. Bété joue avec le feu. Après la pause, on parle avec Sébastien Lachance, cofondateur et directeur général de la course Kilomax. On parle du Mont-Saint-Anne de façon négative. Bien là, on va en parler de façon positive avec cette belle course en montagne. Restez avec nous à l'émission On en jase sur Boulevard 101.